Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Galère 88.4, votre radio, vous le savez, consacrée à l'actualité, créneau exceptionnel, contexte évidemment exceptionnel, j'allais dire sur tout le territoire hexagonal, mais pas que. Donc exceptionnellement, notre journal démarrera à partir de 8h40 et bouclera à 10h. On est en direct sur les ondes du 88.4. Anthony au micro, accompagné exceptionnellement ce matin de chroniqueur qui était déjà venu chez nous il y a quelques temps. Je veux le saluer évidemment. Richard qui m'accompagne pour cette matinale. Bonjour à toi Richard.
Bonjour à tous.
Voilà, Richard est avec nous. On vous l'avait évoqué précédemment, auditeur, auditrice. On est en direct sur le 88.4 de la bande FM, mais également pour ceux qui possèdent internet, c'est le www.radiogalère.org. Vous pouvez écouter le live depuis évidemment toute la sphère mondiale. On va donc balayer l'actualité rapidement avec notamment Xavier qui est à l'antenne pour nous parler du collectif du 5 novembre. Deux ans, et oui, on va l'évoquer notamment par rapport au drame du collectif du 5 novembre et la rue d'Aubagne qui avait connu un drame évidemment terrible sur cette rue d'Aubagne avec une responsabilité notamment qui était effective. Et puis on fera un petit topo sur les présidentielles et ce duel très serré entre Trump et Biden. Biden a un petit peu d'avance. On ne sait toujours pas qui est le 59e, le président des États-Unis notamment. Par contre, on a quelques pistes et il est possible que le décomptage se fasse dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Mais avant ça, on a évidemment Xavier qui est à l'antenne et qui veut nous parler du 5 novembre. Et après dossier central, dans 4 à 5 minutes, les Gilets jaunes seront avec nous. Ils le sont déjà, Francis, Françoise et Sylvie, les Gilets jaunes du centre-ville, sont là pour nous parler de leurs actions, de leur lutte, de leurs ressentis à l'égard de ce contexte extrêmement préoccupant. Nous avons, donc je l'ai dit, Xavier à l'antenne. Xavier, bonjour, merci d'être à l'écoute de Radio Galère.
Xavier... Oui, bonjour à toi Anthony, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Voilà, je voulais juste faire un petit appel. Demain, c'est le 5 novembre, rappelons-nous des victimes, de leurs familles, de toutes les personnes délogées. Voilà, je vous invite tous à venir à partir de 8h30 à la rue d'Aubagne. C'est une commémoration, 8 minutes de silence pour les morts qu'il y a eu à la rue d'Aubagne.
Pour les 8 morts, on le rappelle malheureusement, les 8 morts qui ont trouvé... Ah, bon ben, ça fait partie aussi du direct. Notre Xavier qui intervenait... Le téléphone a été coupé. Bon, c'est pas grave, on a eu l'information centrale, collectif du 5 novembre, demain à partir de 8h30 à la rue d'Aubagne, notamment à Noailles. On avait quelques doutes si ça se maintenait, c'est maintenu. Évidemment, ça rappelle les 8 personnes qui ont trouvé la mort à cause, évidemment, de ces logements insalubres et de ce drame de la rue d'Aubagne. Évidemment, c'est extrêmement triste. Les Gilets jaunes sont avec nous, on va les saluer. Bonjour Sylvie, bonjour Françoise et bonjour Francis.
Bonjour à tous.
Voilà.
Bonjour.
Vous êtes à l'écoute, évidemment, auditeurs, auditrices. On a des réactions, notamment, déjà, qui ont démarré. J'en profite pour saluer notamment un groupe qui s'appelle Résistant Ici et Maintenant. C'est un groupe qui est sur Facebook. Je vous invite à aller voir, notamment, leur échange, leur ressenti, leur thématique, leur lutte. C'est un groupe qui est à l'écoute ce matin de Radio Galère. Ils sont quelques-uns, même un peu plus, d'ailleurs, à nous écouter et à pouvoir réagir au cours de l'émission, notamment concernant les Gilets jaunes. Ils ont beaucoup de revendications intéressantes et accrocheuses, et ils seront à l'écoute avec nous. Donc on les salue, je le rappelle, le mouvement Résistant Ici et Maintenant, qui nous écoute sur les ondes de Radio Galère. Un petit mot rapidement, évidemment avec Richard et Anthony au micro, sur les présidentielles aux États-Unis. Le duel est très serré entre Trump et Biden. Au moment où on vous parle, évidemment, on peut dire... même si ça reste évidemment extrêmement serré. Joe Biden a pris la parole tôt ce matin chez nous, il y a à peu près une heure et demie, en disant qu'il était très confiant. Joe Biden aurait 225 grands électeurs et Donald Trump serait à 213. Donc il y a une courte avance pour Joe Biden, mais il reste, hein, vous savez que pour être élu président des États-Unis, il faut 270 grands électeurs. Et il reste encore notamment l'Alaska, l'Arizona, la Géorgie, le Maine, le Michigan, la Caroline du Nord, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin sont des États où les résultats sont encore attendus. Je le rappelle, Joe Biden aurait 225 grands électeurs et Donald Trump 213. Il en faudrait 270. Je vous donne une déclaration de Joe Biden qui dit « On est en bonne voie de gagner cette élection. La guerre de communication ne fait que commencer alors que le scrutin est extrêmement serré. On rappelle que les démocrates, qui sont censés représenter Joe Biden, et les conservateurs, qui représentent Donald Trump, ce scrutin est extrêmement délicat, extrêmement bancal, puisque en raison du contexte Covid, on a autorisé, la Cour suprême a autorisé aux États-Unis de pouvoir voter par voie postales, ces fameux courriers qui doivent être dépouillés. C'est pour ça que ça va prendre beaucoup de temps. Et les démocrates qui soutiennent Joe Biden sont les États qui ont été le plus touchés par le Covid, les États démocrates. C'est pourquoi ils estiment être un petit peu lésés et que le décompte aura lieu au fil des heures. On aimerait vous dire qui sera le président des États-Unis au cours de la journée, mais on n'est pas sûr de pouvoir avoir le décompte final, et il est possible qu'on l'ait peut-être que ce soir, voire demain, et certains prédisent même fin de semaine. On prend tout ça avec des pincettes, mais c'est extrêmement délicat. Un mot avec Richard sur Joe Biden et Donald Trump, puis on aura l'occasion d'écouter Sylvie qui nous donnera son ressenti. Un mot, Richard, on devait être fixé tôt ce matin chez nous, heure hexagonale, on ne l'est pas. Un mot sur cette élection extrêmement attendue par les Américains, mais également par le monde entier, et notamment par la France, puisqu'on le rappelle que la nomination de l'un ou de l'autre peut engendrer différentes dynamiques, différentes trajectoires et différentes aussi contraintes pour notamment Emmanuel Macron, Richard.
Oui, c'est vrai. Bon, les deux sont encore en piste, bien que Biden ait un petit peu d'avance. Ce qui est inquiétant, bien sûr, c'est la fracture américaine dans les deux visions de cette Amérique et l'impact que ça peut avoir sur nous, sur l'ensemble du monde, évidemment, compte tenu que l'Amérique est quand même la première puissance mondiale aujourd'hui.
Oui,
et donc les résultats, comme tu l'as dit, ne seront pas là avant au moins deux jours. Et voilà, bon, donc chacun en Amérique défend sa position. On sait que Trump va prendre la parole bientôt. Et bien sûr qu'il se déclarera gagnant à tous les coups.
Oui.
Donc voilà, et on attend impatiemment de voir, car on est étroitement liés, nous, aux élections américaines, hein, bien entendu. On est impacté par Trump, on le sait, et on espère que ces élections se passeront au mieux et que tout s'arrangera dans les relations, surtout entre les pays. Voilà.
C'est important ce que tu viens de dire, c'est qu'en espérant que tout s'arrange, on n'est pas sûr que tout s'arrange. Sylvie, un mot rapidement, on fait vraiment une petite minute sur les élections et puis on passe au dossier central, les Gilets jaunes.
Oui,
deux minutes, me dit Sylvie. Voilà.
Oui, juste deux points, et le ressenti en fait d'un Gilet jaune, hein, c'est qu'on constate, comme ça a été en France, que les éditorialistes mainstream, cette espèce d'élite complètement déconnectée des classes populaires, s'est complètement plantée. Ils nous annonçaient un raz-de-marée Biden, et puis bon, visiblement, c'est peut-être lui qui va l'emporter, mais il n'y a pas ce raz-de-marée. De même qu'ils n'avaient pas du tout compris cette vague de fond qu'avait été le mouvement des Gilets jaunes. Et la deuxième réflexion, c'est que depuis quelques jours, on entend, eu égard à l'élection passée, où c'était Hillary Clinton qui, dans le vote populaire, avait gagné avec 3 millions de voix, mais finalement, c'était Trump qui l'avait emporté avec le système du suffrage universel indirect, de nous dire que quand même, ça pose un problème. Mais moi, je n'ai pas entendu les mêmes éditorialistes protester quand on a vu que parmi les 4 candidats qui sont arrivés dans un mouchoir de poche, finalement, pendant les présidentielles en France, on s'aperçoit qu'à l'élection, au moment des élections législatives, et je rappelle que les présidentielles, c'est le suffrage universel direct, donc à la proportionnelle, c'est finalement le vote le plus juste. On s'aperçoit qu'on a un groupe, La République En Marche, qui a une majorité absolue, ce qui lui a permis de faire la pluie et le beau temps en France, alors qu'il ne représentait rien en pourcentage dans la population.
Avec un contexte extrêmement délicat, voilà. Notamment lors de l'élection d'Emmanuel Macron.
Exactement. La France Insoumise, qui était arrivée en troisième position, ils ont tout juste de quoi faire un groupe. Et le Front National, après je ne porte pas de jugement sur les partis politiques, c'est simplement
un
factuel.
National, oui,
oui merci, le Rassemblement National, qui était arrivé au second tour, donc en deuxième, ils n'ont même pas de quoi faire un groupe. Et je pense que c'est effectivement cette injustice avec finalement des gens qui ne sont pas représentés, qui explique aussi ce soulèvement populaire qui a eu lieu avec les Gilets jaunes.
Intéressant, la transition est toute faite. Tu aurais pu être chroniqueuse ce matin chez nous, en effet, mais la transition est extrêmement intéressante et accrocheuse. On le rappelle aussi, Richard l'a bien dit avec pertinence au tout début, il y a aussi une influence considérable des États-Unis sur notre territoire hexagonal, et que aussi bien Joe Biden ou Donald Trump peut engendrer différentes contraintes, différents leviers qui vont pouvoir être exercés. Et ça aussi, quand tu as évoqué au départ, Sylvie, que personne ne l'avait prédit, quand on parle des fameux médias de masse. Alors, Radio Galère, on ne se considère pas comme un média de masse, on se considère comme un média local avec une vraie liberté d'expression. C'est important, vous êtes plusieurs à réagir, d'accord, pas d'accord, avis convergents, divergents. Beaucoup de groupes aussi se créent sur Facebook et autres en disant on a le droit de dire nos expressions, on a le droit de dire nos ressentis. Bien sûr, c'est clair, net et précis, on a le droit et on a le droit aussi d'être inquiet. Peut-être un dernier mot sur les élections, Françoise et Francis, si vous le souhaitez. Sinon, direction, évidemment, le dossier des Gilets jaunes. On y va. Allez, c'est parti. Donc, on l'évoquait, dossier Gilets jaunes qui est ouvert. Je le rappelle, c'est aujourd'hui les Gilets jaunes du centre-ville de Marseille qui sont représentés avec Sylvie, Francis et Françoise. On va évidemment parler de vous. On est désormais à 2 ans du premier mouvement des Gilets jaunes qui a été créé. On se rappelle le 17 novembre 2018, création du mouvement des Gilets jaunes. Tu l'as bien dit, Sylvie, qui a au départ été marginalisé, qui a été réduit par les médias, qui a été un petit peu dans l'obscurité par les politiciens. On a dit que ça n'allait pas durer, on a dit que c'était un effet justement provisoire. 2 ans après, comment se porte le moral des troupes des Gilets jaunes? Là, je m'adresse à vous trois, et libre à vous de prendre la parole, évidemment, Françoise, Francis et Sylvie.
Alors, moi, j'avais juste une petite question annexe. Moi, ce que j'avais constaté dans les débuts des Gilets jaunes, et puis la suite aussi, c'est une fraternité entre les gens, etc. Et donc, la question que je vais vous poser, c'est que malheureusement, par rapport au Covid existant, est-ce que vous avez donc une idée sur l'évolution des manifestations, comme vous allez les organiser? Bon, on sait que le Covid, malheureusement, impacte tout le monde. Voilà, moi, c'est une question qui m'interpelle, quoi.
Intéressant. On y va. Votre avis là-dessus, les Gilets jaunes?
Alors moi, je vais faire le lien avec la question que tu avais posée, Anthony, et puis toujours les élections. Le mouvement des Gilets jaunes, ben, il est effectivement toujours présent. Et justement, là, je parlais tout à l'heure de ce ressenti face à un manque de démocratie. Et ce manque de démocratie, on y reviendra tout à l'heure par rapport à la Covid. Très rapidement, et ça n'a pas du tout été mis en valeur, toujours là, par ces fameux médias mainstream, qui ont vraiment beaufisé les Gilets jaunes, il y a eu cette exigence du RIC. Et ça, c'est quelque chose sur lequel les Gilets jaunes ont continué à travailler. Alors,
Le RIC, voilà, le référendum d'initiative collective qui permettait...
Référendum d'initiative citoyenne. Et notamment dans le RIC, il y a plusieurs aspects. Il peut être législatif, mais surtout, il peut être révocatoire. C'est-à-dire qu'un élu qui ne remplit pas le programme sur lequel il s'est engagé, il pourrait, alors dans certaines conditions, hein, un nombre d'électeurs, etc.
C'est que beaucoup auraient été... évincé, puisque depuis des années, personne ne remplit quasiment ses missions.
Voilà, et donc il y avait vraiment cette exigence de démocratie directe, et ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas, parce que ça ne se voit pas dans les manifestations, etc., mais sur lesquelles les groupes de Gilets jaunes continuent à énormément travailler.
Francis, un mot là-dessus, ou même deux. Juste un point, parce que l'auditeur réagit, je salue Pierre, qui fait partie du mouvement, je le rappelle, résistant ici. Je l'avais évoqué en tout début de l'émission, mais c'est important de le rappeler. Résistant ici et maintenant, qui nous dit « Pratiquement tous les médias mondialisés retiennent les vraies informations qui donneraient une avance sur Trump, qui n'ont pas encore été divulguées. Tout ceci est orchestré et certainement, évidemment, savamment manipulé. » Voilà. Merci Pierre pour cette réaction. Francis.
Oui, je reviens donc sur les 2 ans des Gilets jaunes. Où en est le mouvement à l'heure actuelle? C'est assez compliqué de résumer la situation au niveau national, parce que comme vous le savez, c'est organisé par ville, par village, etc. Donc parfois il y a des retours, parfois on n'en a pas, parce que bon, c'est un peu difficile de centraliser un peu les informations, bien entendu. En ce qui concerne Marseille, depuis quand même quelques temps, il faut le dire, on a été très peu nombreux dans les manifestations à 14h au Vieux-Port, je le rappelle, même y compris avant le confinement, ça c'est une réalité. Maintenant, le pourquoi, il y a plusieurs raisons. Il y a eu une répression policière, on le sait, il y a eu une répression judiciaire, on le sait, il y a une répression financière. Donc tout ça, ce sont quand même des éléments...
Qui a amoindri le mouvement, ce sont ces facteurs-là, selon vous, qui a amoindri le mouvement des Gilets jaunes?
Bien sûr. Plus, et aussi, il faut le dire, lorsqu'on s'organise en groupe et qu'on veut pas de chef, c'est d'autant plus difficile.
Parce que c'est le principe des Gilets jaunes, on le rappelle, hein, cette, cet esprit démocratique, sans chef, sans hiérarchie.
Voilà, et c'est un combat aussi qui est d'autant plus difficile à mener. Je reviens donc sur Marseille. On a par exemple, là ces derniers temps, puisqu'on était peu nombreux, on a fait quand même une petite action symbolique en prenant le petit train. De façon, le petit train qui nous amène à la Bonne Mère, mais de toute façon absolument légale, hein, puisqu'on a pillé notre billet, on ne l'a pas pris de force, on n'a pas été des cow-boys ce jour-là ou des Indiens. Et puis, bon, on a animé le parcours avec nos pancartes, avec nos slogans, etc. Et arrivé à la Bonne Mère, également, on a pu déployer quelques banderoles contre la répression, justement, policière et pour la dissolution du...
De l'IGPN.
De l'IGPN, j'allais dire. De l'IGPN. Il y a eu quelques altercations, d'ailleurs, avec la sécurité de la Bonne Mère qui n'a pas voulu qu'on déploie nos banderoles. Enfin, tout ça pour dire que, malgré tout, on arrive à mener quelques actions, même symboliques, mais on arrive à le faire. On s'organise toujours, c'est-à-dire on tenait nos réunions à un endroit, je pense que je peux en parler, qui est à la base, qui est près du métro Chartreux, l'adresse exacte, rue Roche, enfin bref, peu importe. Oui. Et on a à peu près une quarantaine à se réunir de façon régulière tous les mardis.
À 18h30, 3 rue Pierre-Roche.
Je laisse la parole à Françoise pour qu'elle continue.
Oui, Françoise, qu'on n'a pas encore entendu, juste un auditeur qui a réagi. Samy, je le remercie, je le rappelle, 04 91 08 28 10. Au moment, ce journal, c'est également le vôtre. Vous pouvez réagir à l'antenne. Vous soyez d'avis convergent ou divergent. Et Samy qui nous dit simplement que le mouvement des Gilets jaunes, il s'est évidemment amoindri, mais c'est aussi une volonté politique de réduire à néant les différents mouvements qui se crée parce que ça pose un vrai problème. Alors on parle de pluralisme, on parle de démocratie. Il nous dit, je ne suis pas sûr qu'on soit toujours en démocratie en France, puisqu'on le sait, les médias, alors il ne nous dit pas Radio Galère, hein, donc j'apprécie, parfois sont omnibulés et sont lobotomisés pour transmettre une information. Merci Samy pour cette réaction. Françoise, qu'on n'a pas encore entendu, Gilets jaunes du centre-ville. Votre avis là-dessus, Francis et Sylvie l'ont très bien fait, en tout cas nous évoquer un petit peu le moral des troupes des Gilets jaunes. Comment ça se passe actuellement et puis comment vous vivez ce contexte extrêmement particulier, ce confinement? On va y rentrer. Il nous reste une demi-heure, donc on va absolument en parler. Mais votre avis là-dessus, François?
Moi, je voulais dire que par rapport, que d'après les échos que j'ai, dans les campagnes, les mouvements est beaucoup plus... ne s'est pas réduit. Hein. C'est surtout en ville, en fait, parce que c'est en ville qu'on a de la répression. Bon, alors donc, pendant le confinement, on a continué à se réunir, on s'est réunis, on a changé de lieu, on s'est retrouvés à la base, sauf le premier mardi de chaque mois, là, on se réunit au McDo de Sainte-Marthe. Pour pouvoir faire une réunion ouverte et justement participer à certaines actions solidaires qu'organise Kamel du McDo Sainte-Marthe. Par rapport au Covid, donc là pour l'instant, justement, on est en train de se poser des questions. On va faire des visioconférences, je pense. Plutôt
c'est au goût du jour, en effet.
Voilà.
Les visos, il faut les utiliser, en effet.
Voilà, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir tous y aller, en plus, là-bas.
Exactement. Oui, peut-être, Richard, peut-être une réaction, et puis on poursuit,
oui,
évidemment, avec les différents...
C'était un petit peu la question que je l'avais posée tout à l'heure, c'était que par rapport au Covid, bon, comment peut-on s'organiser? La visioconférence, évidemment, c'est une solution. Est-ce que c'est la seule que vous envisagez? D'autres solutions peut-être? Bon, ça paraît difficile un peu de vivre au travers de cette maladie qui embête tout le monde, surtout dans des moments de crise forts aujourd'hui de contamination, quoi.
Alors, on a des idées, mais forcément, on ne les développera pas ici. Tout ce qu'on peut dire, par exemple, c'est que lors du confinement précédent, on avait fait pour le 1er mai un rassemblement pour rester dans le cadre légal, entre guillemets. On avait été faire la queue chez Raoult sous prétexte de se faire dépister. Donc ça, c'était autorisé. On avait nos masques, etc. Mais on était venus avec des banderoles de gilets jaunes. Et là, on envisage un certain nombre d'actions dans des lieux ouverts, autorisés, où on pourra se regrouper et où on pourra circuler, se faire entendre, éventuellement distribuer des tracts. Et puis surtout, là, pour revenir sur la question que vous posiez, là, sur la solidarité qui a été évoquée par Françoise, effectivement, voilà, oui, pendant le précédent confinement, il y a un certain nombre de gilets jaunes, dont Francis, qui avait participé là aux actions, parce qu'il faut bien savoir que le Covid, il touche en particulier les classes populaires, et qu'il y a des gens qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans aucune ressource, et qu'il y a un énorme travail qui est fait par Kamel et par toute l'équipe du McDo, justement, pour collecter.
Kamel qu'on avait reçu, syndiqué Force Ouvrière, qu'on avait reçu à la radio, évidemment, pour parler notamment de cette grève de la faim, de ce McDo Sainte-Marthe, avec tout ce que ça engendrait derrière. Voilà.
Et donc, il y a un gros travail de distribution de paniers. Et au moment, pareil, là, du problème là, des inondations dans la vallée de la Roya, ben, il y a un certain nombre de gilets jaunes qui avaient été donnés la main aussi au McDo pour trier des vêtements et envoyer des paquets. Donc la solidarité, c'est quand même, ça fait partie de notre ADN. Parce qu'on est aussi pour la construction d'un monde plus démocratique, mais aussi plus solidaire et plus fraternel.
Bon, mais ça, c'est une bonne chose, de toute façon. Hein. Et c'est vrai qu'il faudrait augmenter ces voix, qui sont actuellement quand même un petit peu en besoin, quoi. Hein.
Non, moi, je ne suis pas d'accord. Il ne faudrait pas les augmenter. Il faudrait que l'État y prenne en charge. C'est de la responsabilité de l'État. Par exemple, sur la Roya, moi, je suis scandalisée que ce soit les simples particuliers qui aient collecté des vêtements. Moi, j'ai vu que dans la Roya, il y a des gens qui ont reconstruit une passerelle pour désenclaver un village. Mais dans le temps, on avait des services publics. Ça fait partie aussi, justement, des revendications des Gilets jaunes.
Tout à fait.
Restaurer les services publics. On a sabré les services publics. On le voit aussi, là, dans le cadre de la Covid, avec l'histoire de l'hôpital qui a été complètement saccagé. Normalement, c'est à l'État d'assurer
oui,
tout ça.
Fait, oui.
C'est ce que disait Coluche, d'ailleurs. La victoire, ce sera le jour où les Restos du Cœur, ils fermeront tous.
C'est ça, voilà. dans le sens où on ne peut pas toujours tout changer de suite et puis on n'a pas la maîtrise. Quoi.
Bien sûr.
Donc c'est pour ça que je disais que c'était bien d'augmenter les solidarités. En fait, c'est vrai que dans l'absolu, bon, vous avez raison.
La solidarité, d'accord, mais pas la charité.
Oui, voilà. Je suis d'accord.
C'est l'État qui doit se charger la solidarité et la fraternité.
Oui. Et on nous dit également, surtout, on a une réaction en me disant, surtout dans le génie civil, et en effet, on sait que l'armée est capable de venir, notamment dans la vallée de la Roya, et de pouvoir créer des ponts, ils ont les compétences, ils ont le savoir, ils ont le vécu, et c'est vrai que ça a été très peu utilisé, la solidarité a été extrêmement présente, et tant mieux, mais il est vrai qu'il y va de la responsabilité de nos politiques, de pouvoir œuvrer, et de pouvoir rectifier le tir, entre guillemets, et de subvenir à des besoins extrêmement préoccupants. On va parler, chers gilets jaunes et auditeurs et auditrices, de la dictature sanitaire et des inégalités sociales face au confinement. Sylvie, un mot là-dessus, évidemment. Et puis on parlera des différentes résistances. Et on reparlera, vous l'avez évoqué tout à l'heure du professeur Raoult, on parlera du problème de l'hydroxychloroquine avec le poids des lobbies pharmaceutiques notamment. Sylvie, sur la dictature sanitaire.
Oui. Quand les gilets jaunes se sont soulevés, ils ont pointé le gouvernement Macron, qui était un gouvernement des ultra-riches. Et finalement, là, avec cette dictature sanitaire, dont je reviendrai sur le terme sanitaire, peut-être aussi vous pourrez dire quelques mots, c'est sur l'inégalité sociale. On a tous vu le reportage samedi qui montrait qu'il y avait un contrôle des forces de police à Marseille sur la Corniche, sur la plage des Catalans, etc. Et que tous les gens qui étaient à plus d'un kilomètre étaient verbalisés. Ça veut dire que les gens qui habitent les quartiers chics, on va dire, hein, qui habitent en bord de mer, qui habitent près du parc Borély, enfin, dans tous ces quartiers où il y a déjà une aération, ils peuvent aller se promener au bord de mer, etc. Et les gens qui habitent dans les quartiers nord, quelle solution ils ont à part faire le tour de leur cité sur un kilomètre? Et ça, alors déjà, ils sont dans des appartements qui sont petits, ils n'ont pas forcément d'extérieur, mais en plus, on les restreint. Et je veux dire, rien que ce fait-là, qui est un tout petit fait, montre que notre gouvernement, il n'a pas réfléchi deux minutes quand il a confiné les gens, de se dire qu'il y avait des gens pour qui le confinement, ça allait, un kilomètre, bon ben ma foi, et puis qu'il y en a d'autres que ça allait plonger dans une situation absolument catastrophique. Ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et puis, je dis encore un mot. Si on revient sur la dictature, nous, on avait ciblé le gouvernement Macron qui prenait des décisions sans consultation ou alors avec une assemblée nationale qui était godillot là, avec cette majorité LAREM. Quand on a entendu le discours de notre président qui annonçait le nouveau confinement, il a dit dans son discours que de façon très démocratique, le lendemain, il y aurait débat au Parlement et il y aurait vote. Mais il y a un débat après que les décisions aient été prises. Ça veut dire qu'il a pris la décision, lui, tout seul, Y compris qu'on sait maintenant qu'il y a cette espèce de conseil secret là où, qui prend toutes les décisions.
Le conseil scientifique, voilà.
Non, il y a un autre conseil, le conseil de sécurité, là je ne sais plus comment il s'appelle. Le conseil de défense, qui prend les décisions en amont du conseil des ministres. Et là où c'est très très grave, c'est que comme ils sont couverts par le secret défense, ça veut dire qu'ils ne pourront pas être poursuivis. Or nous, les Gilets jaunes, quand on demandait le référendum révocatoire, on demandait à pouvoir exercer un contrôle sur nos élus. Ce conseil des défenses, couvert par le secret défense, il ne pourra plus être poursuivi, alors qu'on a vu que des gens comme Véran, Buzyn, etc., ils étaient poursuivis pour leur incompétence à avoir géré la crise par un collectif de médecins. Donc là, ils se prémunissent, et c'est encore un pas dans cette évolution vers la dictature.
On a juste avant d'écouter Françoise, on a Xavier, auditeur, qui souhaite réagir. Voilà, donc on lui laisse la parole. Tu as une petite minute, Xavier.
Bon. Ouais, bonjour, rebonjour, c'est encore Xavier. Voilà, et bonjour. En fait, je voulais parler des gens de la rue, que le confinement ne les concerne pas. Le gouvernement n'a rien prévu pour ces gens-là. Et voilà, je pousse un grand coup de gueule à ce sujet-là. Et j'invite les Gilets jaunes à faire des repas de rue pour nourrir tous ces gens qui crèvent la dalle dehors.
Merci Xavier pour ce cri du cœur.
Merci
Xavier.
Merci.
Et on le comprend, évidemment, le gouvernement, depuis tant d'années, on l'évoquait, si Coluche, si on n'utilisait plus le Resto du Cœur, ça voudrait dire que c'était une victoire. Mais malheureusement, on sait que c'est pareil pour la Fondation Abbé Pierre, c'est pareil pour Emmaüs, qu'on reçoit d'ailleurs régulièrement, enfin plusieurs fois par an sur les ondes du 88.4. Et en effet, pour les gens de la rue, on parle de certaines maraudes, on parle de solidarité. Richard l'évoquait avec pertinence tout à l'heure. La solidarité a lieu, peut-être pas assez, et le gouvernement, en tout cas, n'y va pas de sa responsabilité. Et c'est à lui, en tout cas, de pouvoir œuvrer dans le bon sens. On va parler des différentes... Merci pour cette réaction, Xavier. Différentes résistances chez les Gilets jaunes. On l'a vu, notamment des maires qui ont refusé que les petits commerces ferment, et les commerces de proximité qui vont droit dans le mur sur le plan économique. On nous parle d'indemnisation à hauteur de 10 000 euros. Il n'en demeure pas moins que ça reste extrêmement complexe. Alors, vous le savez, maintenant, dans les grands magasins, les centres commerciaux, pour ne pas les citer, Carrefour, Casino, Leclerc et autres, on n'a plus le droit d'acheter des produits qui ne sont pas de produits de première nécessité. Ça, c'est quand même incroyable. Donc, vous ne pouvez plus acheter de fleurs, vous ne pouvez plus acheter de CD, de DVD, mais vous pouvez acheter...
De livres.
Comment ?
De livres.
De livres, ça, c'est quand même incroyable. On ne peut pas acheter les livres. Hein, voilà. C'est... Votre avis là-dessus, sur ces différentes résistances ? On sait qu'il y a eu des manifs anti-confinement, anti-masque, ça a pris de l'ampleur. Et sur la position de certains maires, Francis, là-dessus, peut-être cette position-là. Françoise derrière.
Concernant les mouvements de protestation contre le confinement, ou avant ou auparavant, c'était, comment on appelait ça déjà, le couvre-feu. C'est vrai qu'en France, il y a eu quelques petits mouvements, bon, qui sont nettement moins importants que ce qu'il y a en Italie, en Espagne, entre autres. Beaucoup moins.
Oui,
mais pour revenir sur cette histoire quand même de confinement, il ne faut pas oublier que si aussi, entre autres, on est confiné, c'est qu'on a bradé plus de 100 000 lits d'hôpitaux depuis 1981, alors que la population était de 55 millions d'habitants et que maintenant on a 66 millions et qu'il y a 100 000 lits en moins. Donc il ne faut surtout pas oublier ces chiffres. C'est-à-dire, comme disait Sylvie, on démantèle complètement les services publics. On sait très bien... bon, moi j'ose le mot, les capitalistes veulent à tout prix avoir la mainmise totale sur la santé, y compris prendre la sécurité sociale qui représente 300 milliards. Vous pensez que 300 milliards qui échappent aux capitalistes, ça leur file des boutons quand même, surtout pas l'oublier, et que tout ça, c'est toutes les conséquences. Maintenant, effectivement, là, par rapport à l'auditeur les sans domicile fixe et les SDF, ils aimeraient de temps en temps être confinés, effectivement. Ça, il n'y a pas de problème.
On le comprend parfaitement.
Et on sait que la situation, depuis d'un an, il y a plus d'un million de pauvres en plus en France. Donc je crois qu'on atteint les 10 millions, 9-10 millions. Ce qui est absolument affolant dans un pays aussi riche que le nôtre. Aussi riche que le nôtre, c'est vraiment plus qu'un scandale, je veux dire. C'est presque nous expliquer, il y a des pauvres, c'est normal. Et puis il y a des très riches, Oh bah oui, comme si c'était génétique presque. Hein. Il y a des pauvres génétiquement et des riches génétiquement. Enfin bon, nous faire avaler tout ce genre de conneries, c'est quand même absolument grave.
C'est assez indigeste. On a Pierre qui réagit et qui nous dit « Le Sénat ne joue pas franchement son rôle de contre-pouvoir, car le quinquennat a été mis en place pour réduire leur fonction primordiale. » On se rappelle évidemment qu'à l'époque, notamment de Chirac, on était sur un septennat. Et en effet, on a réduit de 2 ans pour qu'ils puissent accélérer en tout cas leurs orientations politiques, leur processus politique et améliorer la vie du territoire français. Or, le Sénat, et je rejoins Pierre, ne joue pas franchement son rôle. Sylvie.
Oui, Françoise. Juste pour répondre à Xavier tout à l'heure, quand il disait les problèmes des sans-domicile fixe, je voulais juste préciser que les Gilets jaunes, effectivement, ils ont participé à des repas, notamment avec l'équipe de la base là, qui est au Chartreux. On avait organisé des repas sur la place des Chartreux. Mais maintenant, avec le confinement, c'est difficile parce qu'on est verbalisable. Et les gens qui viendraient seraient aussi verbalisables.
Françoise, un mot là-dessus, sur les différentes résistances.
Moi, je pense que c'est surtout les populations des quartiers nord qui vont souffrir de ça, ou les populations qui ont un travail précaire, qui vont s'y ouvrir de confinement. Moi, je dis, je ne veux pas un confinement généralisé comme ce qui nous est imposé, parce que je vais me sortir de mon hibernation dans un désert, dans un pays désert exsangue, une économie exsangue. Les commerces ferment, vont faire des faillites en chaîne, et les familles meurent de faim, quoi. Hein. C'est vraiment, ça va être la plus grande misère. Moi, ce que j'aurais trouvé un peu plus intelligent, c'est de, au lieu de faire un confinement généralisé, c'était de faire un isolement des personnes diagnostiquées positives, symptomatiques.
Peut-être.
Non. Oui, enfin, non, ça, elle se confine elle-même, oui. Les personnes vulnérables. Ça, ça me paraît un petit peu normal, hein, c'est leur intérêt peut-être. Hein. Mais en tout cas, mettre à l'isolement les personnes symptomatiques, c'est-à-dire contagieuses. Et si on avait fait des tests PCR antigéniques, là on a un résultat rapide, bon, pas toujours fiable parce que le test est un peu trop précis,
oui,
mais c'est pas grave.
Les tests PCR, il y a même quelques doutes qui subsistent.
Oui, mais antigénique, pas virologique.
Pas les PCR. Hein,
voilà, pour là c'est un peu plus, c'est plus fiable, mais en tout cas, et en tout cas très rapide, et puis ensuite on vérifie le résultat, bien sûr, mais ça cible peu de personnes du coup. Voilà, et les personnes vraiment symptomatiques et donc contagieuses, celles-ci, on les met à l'isolement. Voilà, et tout le reste de l'économie continue à tourner, ça me paraît...
C'est un argument audible. Sylvie, puis on va parler, il nous reste 10 minutes, du problème de l'hydroxychloroquine, notamment sur le poids des lobbies pharmaceutiques.
Oui, mais pour rebondir sur ce que disait Françoise, là, moi, j'ai avec moi un livre là, que vous avez dont vous avez dû entendre parler, c'est le livre du docteur Perron, « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» Ce qui est intéressant, c'est le sous-titre. L'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question d'une part.
Depuis des décennies, peut-être, Sylvie.
Voilà.
Aussi,
mais en particulier, présent. Quand même, sur ce gouvernement. Parce que, d'ailleurs, il l'avait revendiqué. Hein, Macron, il a dit nous sommes des amateurs. Mais oui, il nous le démontre tous les jours. Et effectivement, on a commencé par ne pas avoir de masque, parce que, soi-disant, les masques, ça ne servait à rien. Maintenant, le masque est obligatoire, même quand vous êtes tout seul dans la rue, sous prétexte de vous verbaliser, parce qu'à mon avis, c'est aussi l'histoire de faire rentrer...
C'est une vraie incohérence.
Oui, oui. Après, il y avait des médecins qui réclamaient il faut tester et isoler. On n'a pas testé. Maintenant, on teste, et on sait très bien que avec cette histoire-là de tests PCR qui font tourner, je ne sais pas quoi, 40 fois, on teste des gens, on les déclare positifs, mais en fait, ils ne sont pas contagieux. Donc là, on a vraiment la démonstration de l'incompétence au gouvernement, et c'est ça qui est grave.
Et notamment, avec, on l'a évoqué, les auditeurs le disent aussi parfois, on le relaie sur certains médias, c'est qu'il y a aussi cette politique de la terreur et de l'angoisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement... essaye en tout cas, essaye d'amener cette politique de la terreur, de l'angoisse, comme à l'époque, rappelez-vous, à l'époque des, quand on parlait des montagnards ou même des sans-culottes, c'est-à-dire que ça entretient la peur, et c'est ce que nous dit par exemple Pierre, trop d'incohérences sur les décisions prises par l'État qui amènent constamment des doutes, mais aucune solution pour sortir de cette anxiogénité. C'est vrai que c'est un mot qui revient à la mode, mais qui a toute sa place, qui est extrêmement opportun et malheureusement extrêmement légitime en ces temps de confinement. Elle entretient donc la peur aidée du conseil scientifique. Oui. Voilà. Et ça, évidemment, l'argument et l'éclairage de Pierre est extrêmement intéressant.
Et pour rebondir aussi sur ce que disait Francis, là, par rapport à ce gouvernement des riches au service, finalement, enfin, faut voir les bénéfices et les profits qu'ont fait les entreprises du CAC 40.
Astronomique.
C'est astronomique. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme tous les petits commerces de proximité, alors que quand vous allez tout seul dans votre commerce de proximité, je vois pas où est le risque de contagion.
Surtout et on laisse ouvert, masques, hein, au pire,
voilà, et on laisse ouvert les grandes surfaces, c'est-à-dire les gros. Hein, on a joué les gros contre les petits là, à nouveau. On va ruiner les petits pour laisser la place aux gros, pour laisser la place aux plateformes. Moi, je rappellerai surtout boycotter Amazon. Amazon ne paye pas d'impôts en France.
Alors, en effet, Amazon ne paye pas ses impôts en France. D'autres diront, je ne fais pas l'avocat du diable parce que je défends absolument pas Amazon, qu'il y a quand même 15 000 emplois CDIsés en France. Alors évidemment, c'est très peu, mais comme ça fait partie de certains auditeurs qui nous l'ont dit plusieurs fois à l'antenne quand on disait que Amazon n'était pas opportun, qu'il y a quand même 15 000 emplois qui sont créés. Donc ces emplois-là, ben, évidemment, ils sont injectés dans l'économie du pays, payent leurs impôts en France. Il est évident qu'avec le GAFA, on le sait, Google, Amazon, Facebook et autres, ils devraient payer davantage d'impôts et on devrait en récupérer. Même si quand on fait un achat Amazon, la TVA, elle est quand même payée, hein, pour ceux qui disent qu'elle n'est pas payée.
Oui, enfin, à ce sujet, on pourrait dire, s'il n'y avait pas Amazon, il y aurait peut-être beaucoup plus d'emplois, et peut-être pas dans d'autres conditions, parce qu'il faut savoir,
complètement
les 15 000 salariés, ils bossent dans des conditions de merde, il faut le dire et le redire.
Mais tu fais bien de le dire.
Et ils ont un petit salaire, ils ne payent probablement pas beaucoup d'impôts. Hein.
Oui. Mais ils participent quand même au PIB du pays. Mais je reviens. Et juste un point. Vous avez Cdiscount qui est alors plateforme casino. Hein, c'est le groupe casino qui a absorbé. Donc c'est français. Pour ceux qui ont des doutes, vous avez quand même le choix, même si certains ne sont pas des grands partisans de Cdiscount. Ça reste français. Exactement. Et Amazon, l'ogre américain. Voilà. Mmh. Chacun y verra son compte. Peut-être... On attaque avec l'hydroxyde chloroquine, Sylvie, et puis Richard, n'hésite pas évidemment à poser des questions. On le rappelle, on est en direct sur Radio Galère avec les gilets jaunes du centre-ville de Marseille.
Pour conclure cette partie, on sent quand même que la complexité du problème est grave et que bon, les solutions sont quand même difficiles à trouver, quoi. Et pour revenir sur les conseils qui sont derrière et qui travaillent dans l'ombre, si vous voulez... il est clair qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes disent qu'il y a une incompétence totale de ces gens. Et c'est ce qui donne des indications au gouvernement, quand même. Hein, et que c'est de la bureaucratie totale. Et que, bon, voilà. Donc il y a beaucoup de questions qui sont posées sur ces groupes de recherche derrière. Voilà, c'était pour rebondir sur ce que vous disiez sur... les résultantes d'une politique aussi par rapport aux informations qu'ils ont de groupes. Hein. Voilà. Et donc maintenant, on peut parler de ce médicament miracle qui est très contesté et très...
Alors après, bien sûr, nous, en tant que Gilets jaunes, on n'a absolument aucun avis sur l'aspect médical de l'hydroxychloroquine.
Bien sûr, bien sûr.
La seule chose, avec notre regard Gilets jaunes, et c'est toujours la même chose, c'est toujours le problème de relation entre les petits, les puissants... Un peu peut-être aussi entre la province et Paris, parce que Paris, il n'a pas compris ce peuple des ronds-points. Je voulais préciser, d'ailleurs, Françoise disait tout à l'heure que dans les campagnes, ça existe toujours. À Pont de l'Étoile, donc c'est pas très loin, hein, ça reste dans notre zone urbaine, on va dire, il y a un rond-point avec une cabane qui est toujours là, avec des gens qui sont là 24 heures sur 24, y compris la nuit. Je veux dire, c'est un rond-point qui existe toujours, hein, donc les gilets jaunes sont toujours là. Et donc, c'est pareil. On a vu un conseil scientifique se mettre en place... autour d'une forme de parisianisme, il n'y a aucun épidémiologiste dans ce conseil scientifique. Et on a des épidémiologistes de renom, parce que ce qu'il faut bien voir, je ne veux pas défendre le professeur Raoult, hein, c'est pas mon propos, mais on a à Marseille cet IHU qui est quelque chose d'unique en France, qui est quelque chose d'exceptionnel, qui est quelque chose qui est reconnu mondialement, et... on le balaye vraiment comme si c'était un charlatan. Alors c'est vrai, peut-être que le personnage, il est un peu clivant. Mais bon, Il a quand même des preuves à l'appui, il a des reconnaissances internationales et mondiales, et puis il n'est pas consulté. Et ce qui est dramatique, et il a été un des premiers à le dénoncer, le docteur Perron aussi l'a dénoncé, c'est qu'en fait, normalement, quand un médecin intervient sur les plateaux télé ou quand il intervient dans un conseil scientifique, il devrait d'abord déclarer ses conflits d'intérêts. Pas simplement ses liens d'intérêts, hein, c'est autre chose. Vraiment ses conflits d'intérêts. Or, dans le conseil scientifique, la liste elle a été publiée par François, donc elle est facile à trouver. Ils ont tous des conflits d'intérêts énormes. Ils sont payés notamment par ce laboratoire américain Gilead. Et c'est néanmoins eux qui interviennent. Alors, je ne vais pas revenir sur l'hydroxychloroquine, qui est un médicament qui est consommé par des millions de milliards. Voilà. Depuis plus de 80 ans, qui a été tout d'un coup, du jour au lendemain, déclaré dangereux. Alors moi, je ne sais pas s'il est efficace, pas efficace sur la Covid. Bon, il y a des études. Pourquoi le gouvernement français, quand il a lancé les tests randomisés, il n'a pas fait un test sur l'hydroxychloroquine? Pourquoi, quand l'étude là, du Lancet, elle est parue, du jour au lendemain, Véran, il a interdit la prescription de l'hydroxychloroquine? Quand on a démontré que cette étude, elle était complètement falsifiée, il ne l'a pas rétablie. Donc là, il y a vraiment des vraies questions à se poser. Et c'est toujours la même chose. On se demande qui sont derrière nos gouvernements, si ce n'est pas les intérêts d'argent. Enfin, quand on se le demande, je veux dire, la réponse est dans la question. Et c'est ça que les Gilets jaunes contestaient aussi. C'est le poids des lobbies d'argent sur le gouvernement.
D'ailleurs, le professeur Raoul continue à... Et je crois qu'il intente même un procès.
Il a intenté un procès, oui.
Je ne sais pas s'il y a le résultat du procès ou pas, mais il défend nettement son produit. Et je pense que c'est quand même une sommité, quoi. Je pense qu'on peut être pour ou contre, mais enfin, on ne peut pas lui enlever tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a obtenu en diplôme et tout. Hein.
Et au-delà de son médicament, il défend la liberté de prescrire, qui est très très importante.
Tout à fait.
Oui, moi je pense qu'en ce qui concerne la pénurie d'hydroxychloroquine, que Sanofi on ne sait pas qui c'est qui a décidé de plus fournir d'hydroxychloroquine au laboratoire de Raoult. Mais si Sanofi avait été un service public comme ça avait été créé au départ, hein, si l'État n'avait pas revendu ses parts, eh bien, Sanofi aurait fait son travail correctement et il ne se serait pas mis hors la loi. Il aurait fourni l'hydroxychloroquine comme il est obligé de le faire quand un client lui demande.
Tout à fait, oui. Et ça, c'est vrai que ça facilite la recherche d'argent par d'autres types de médicaments qui sont nettement plus chers, peut-être plus efficaces, je ne sais pas, mais plus chers certainement.
En tout cas, ils sont prouvés qu'ils ont des contre-indications majeures, notamment sur le système rénal, et qu'ils sont excessivement dangereux de ce côté-là. Et leur efficacité, apparemment, n'est pas prouvée.
C'est vrai. Voilà, bah écoutez, c'est bien de faire un point sur l'ensemble de ces éléments. Vous avez un dernier mot ?
Oui, juste un dernier mot, enfin complètement, parce que je pense qu'on termine en 2 minutes, c'est ça ?
Oui, c'est ça, oui.
Alors non, c'est une publicité, enfin une publicité indirecte, et par rapport aux Gilets jaunes, bien entendu. Si vous allez sur Internet et vous tapez France 3 Grand Est, il y a un documentaire sur les Gilets jaunes de Commercy, qui a été le premier rassemblement de l'ADA, Assemblée des Assemblées, qui est un documentaire qui dure 50 minutes, donc qui a été projeté le lundi 2 novembre à 22h. Donc vous pouvez le reprendre en replay sur France 3 Grand Est, et le titre, il est merveilleux, « Nous ne sommes rien, soyons tout ».
C'est vrai, tout à fait.
Puisqu'on est sur la page des publicités, j'en fais une autre.
Et allez-y.
Les Gilets jaunes Marseille-Centre ont une page Facebook. Donc vous tapez Gilets jaunes Marseille-Centre et vous pouvez suivre nos activités. Et quand on fait notamment des actions, eh ben, on les publie, et on met les vidéos et on donne un maximum d'informations.
Bah écoutez, c'est bien de pouvoir...
Oui, merci à Radio Galère de nous avoir permis de faire un peu de pub pour le mouvement des Gilets jaunes.
Bah écoutez, franchement, c'est
Il nous reste une petite minute. Pour conclure, en tout cas, on le rappelle, avec les Gilets jaunes du centre-ville. Un dernier mot peut-être, Sylvie, Françoise, Francis, sur les actions à venir, les revendications notamment. Alors, ben, je laisse la parole pour conclure.
Moi, ça va tenir en un mot. On a parlé de la jaunisation de la société. À chaque fois qu'il y a maintenant des mouvements de revendication, de contestation, ça montre bien l'impact qu'a eu ce mouvement populaire.
C'est vrai.
Et nos revendications restent toujours les mêmes.
Vos revendications restent toujours les mêmes, c'est important de le rappeler. On a Pierre qui finit, qui a été fidèle auditeur et qui a réagi tout au long de l'émission, qui nous dit « Les actionnaires des grandes surfaces sont des politiques. La dictature sanitaire cache beaucoup de choses que l'on découvrira plus tard. Et là, beaucoup de personnes tomberont de leur chaise. Ce n'est qu'une image pour cacher l'iceberg qui est beaucoup plus délicat pour organiser un autre mode de vie qui va amener beaucoup plus de précarité, de pauvreté. » Je crois que Pierre est dans le vrai. Voilà. Malheureusement, j'ai envie de dire, malheureusement. Merci au mouvement des Gilets jaunes d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio Galère.
Merci à Radio Galère de nous avoir invités.
Avec grand plaisir. Et puis on vous dit évidemment à bientôt. Bonne continuation, bonne lutte à vous. Vous êtes toujours les bienvenus sur les ondes du 88.4. Pause musicale. Et puis on reçoit, on l'avait déjà évoqué, le collectif Manifesterien. On va parler de culture et des ateliers notamment. Vous verrez, c'est extrêmement intéressant avec Jérémy Béchon et Marie Béchon sur les ondes de Radio Galère. Pause musicale. Et donc, on revient juste après ça, Savage Love, sur le 88.4. Merci à tous ceux qui ont réagi. Galère 88.4, 9h30 sur les ondes de Radio Galère. On a bien respecté, en tout cas, et on est ravis d'avoir respecté le timing sur les ondes du 88.4. On a 27 à 28 minutes ce matin avec le collectif Manifesterien qu'on connaît bien à la radio et qu'on apprécie toujours évidemment leur venue. Il est représenté aujourd'hui par Jérémy Béchon, auteur, metteur en scène, co-directeur artistique. Il est accompagné de Marie Béchon, qui est anthropologue et médiatrice socio-culturelle. On va parler avec eux, évidemment, de leur actu, de leurs ateliers. Alors, Jérémy nous dit qu'il n'y a pas de retour son.
Si, c'est bon.
Ah ben parfait, alors impeccable, on est bon, tout va bien sur les ondes du 80.4. Bonjour Jérémy, bonjour Marie.
Bonjour.
Voilà, bienvenue sur les ondes de Radio Galère 88.4. On rappelle que on est également audible sur le www.radiogalère.org. Et pour ceux qui possèdent la RNT, c'est le canal 8C. Richard est toujours au micro avec moi en tant que chroniqueur ce matin sur les ondes de Galère, accompagné d'Anthony, moi-même au micro. Jérémy, Marie, un mot, même deux évidemment, sur le collectif Manifeste Rien. Comment on peut identifier ce collectif et son ADN artistique, parce qu'on a besoin de culture. On a fait un dossier extrêmement lourd précédemment, notamment avec les gilets jaunes et tout ce que ça, j'ai envie de dire, tout ce que ça engendre sur le plan social, politique, économique. On a parlé évidemment de cette crise et de ce Covid-19. On va parler du positif, on va parler d'évasion culturelle, on va parler d'ateliers. Jérémy, parle-nous du collectif Manifeste Rien.
Merci de nous inviter encore une fois sur Radio Galère.
Toujours un plaisir.
Le collectif Manifeste Rien, c'est du théâtre et de la critique sociale. Et le public ou une partie du public nous connaît pour les pièces de théâtre qui sont des adaptations le plus souvent de recherches de sciences sociales, de livres d'histoire, de sociologie, d'anthropologie. Par contre, le travail qu'on mène directement au sein des quartiers populaires, ou des prisons ou des écoles sont possibles grâce aux ateliers de médiation qui sont des ateliers de médiation et de critique sociale. Et l'occasion là de ne pas jouer les pièces sous l'interdiction gouvernementale permet pour nous de venir vous présenter ces ateliers qui sont vraiment la face cachée de l'iceberg en quelque sorte.
Non, c'est intéressant ce que tu dis Jérémy, c'est que on a reçu plusieurs évidemment acteurs, j'allais dire, du monde culturel, notamment sur le plan local. Ils étaient plutôt tous défaitistes, avec une vision un peu lugubre, en disant voilà, on ne nous laisse pas ouvrir les théâtres, on ne nous laisse pas à s'évader culturellement, la liberté est remise en cause. Et toi, tu as un esprit qui est extrêmement intéressant, et pourtant on le sait que tu as quand même un esprit critique, hein, notamment sur la recherche et autres. Et tu estimes que ça peut être aussi quelque chose de positif, et peut-être une recherche sur d'autres paramètres. C'est quand même extrêmement intéressant.
Oui, je suis pas forcément positif avec notre gouvernement, mais par contre, je crois assez peu à la notion de liberté. Je crois beaucoup plus à la notion de solidarité et de fraternité. Et du coup, c'est pas parce qu'on est interdit de culture que les solidarités s'arrêtent. Et c'est pour nous, encore une fois, une manière de pouvoir théoriser les actions qu'on mène. Avec ma sœur, notamment Marie Béchon, qui va vous parler peut-être plus de ces ateliers-là.
Exactement. Mais on y vient. Juste un petit mot, Jérémy, nous rappeler un petit peu, puisqu'on va l'évoquer notamment avec HUM, l'Histoire universelle de Marseille, les différents projets qui étaient mis à l'honneur ces derniers temps, ces derniers mois. On t'avait reçu là-dessus, nous faire un petit compte rendu, et puis quel a été un petit peu le retour par rapport à ces différents projets, ces différentes mises en scène. Différentes mises en scène, pardon.
Alors moi j'avais juste une question intermédiaire.
Ah, voilà.
Dans vos activités, est-ce que vous êtes nombreux dans les représentations? Il y a beaucoup de personnes qui sont avec vous? Comment ça se passe chez vous?
Ça dépend des spectacles, mais la plupart des spectacles sont des solos de la comédienne Virginie Aymon, avec qui je co-dirige le collectif Manifeste Rien, avec qui j'adapte les livres. Là, on est venu parler de l'Histoire universelle de Marseille, qui est l'adaptation du livre d'Alessi Delumbria aux éditions Agon, et de La domination masculine de Pierre Bourdieu, auquel on a ajouté les textes de Tassadit Yassine, qui est une anthropologue franco-algérienne, qui a beaucoup travaillé avec Bourdieu et avec qui on a aussi travaillé.
On connaît bien désormais Sœur de Galère, on connaissait, mais qu'on connaît davantage depuis que tu es sur les ondes et que tu nous en parles.
Et sous l'interdiction de jouer, on est venu vous présenter ces pièces qui sont emblématiques de notre répertoire.
Voilà.
Parce qu'elles ont permis de nous faire connaître, avec cette Histoire universelle de Marseille, qui a un écho très fort sur l'identité marseillaise, et avec La domination masculine, qui, sous le coup de la focale médiatique qui s'est faite avec le mouvement MeToo, a remis au goût du jour, de manière un peu macabre, mais quand même a permis de faire entendre cette parole féminine et cette domination masculine qu'a théorisé Pierre Bourdieu et Tassadit Yassine.
Oui, parce que la domination masculine, on va le voir avec Marie Béchon, anthropologue et médiatrice socioculturelle, c'est évidemment, il y a une connotation qui peut être interprétée différemment. Hein. On aura l'occasion d'y venir avec l'Histoire universelle de Marseille, mais la domination masculine n'est pas quelque chose d'avéré. Il y a un esprit peut-être évidemment critique à l'égard de ça, Marie.
Est-ce que la domination masculine n'est pas avérée? Il me semble que si, mais je vais partir de notre travail. Nous partons du travail de Pierre Bourdieu, et en tant que sociologue, il analyse les relations de genre entre les hommes et les femmes, et voire même au sein des genres eux-mêmes. Et si, la domination masculine est bel et bien sociologiquement existante.
Oui, quand je dis avérée, ce que je veux dire, c'est qu'elle est peut-être, je l'espère vraiment, on peut rectifier le tir, et que ce n'est pas quelque chose d'inéluctable, et qu'il y a peut-être matière à changer les mœurs et la mentalité. Voilà,
oui, ça c'est certain. C'est ce que je voulais dire. C'est effectivement tout le principe aussi du travail de Pierre Bourdieu, de déconstruire les mécanismes de la domination pour justement les comprendre, voire les déconstruire et en créer... et en sortir. Et c'est aussi dans cette mentalité, dans cet objectif-là que travaille le collectif Manifesterien. On est toujours dans la critique sociale, mais pour déconstruire les situations problématiques et pouvoir, si possible, en penser de nouvelles.
Ça, c'est intéressant. Marie, on peut évoquer avec toi notamment les différents ateliers de sciences sociales et d'éducation populaire. Donc, tu es anthropologue, médiatrice socioculturelle. Parlons-nous un petit peu justement de ces ateliers. Nous, on a un support extrêmement intéressant que vous nous avez donné, notamment sur différents thèmes, avec de notre théâtre à la transmission du savant. Parlons-nous un petit peu de ça, puis on aura l'occasion évidemment de parler de l'histoire universelle de Marseille.
Eh bien, les ateliers qu'on mène au sein du collectif, que j'anime moi personnellement, c'est comme un deuxième temps de notre travail de théâtre, mais en fait qui accompagne les spectacles. Et l'idée, c'est que si Jérémy Béchouin et Virginie Hemon transcrivent et traduisent des œuvres de sciences sociales sur scène, en spectacle, moi j'ai un autre travail de transcription et de traduction de ces propres thématiques et spectacles en atelier. Et le travail va être de prolonger la critique sociale, à la différence que si ça passe par le ludique et le sensible sur scène, moi, mon travail, ça va être de réillustrer à ma manière, mais d'amener les groupes, notamment les jeunes et les femmes, on va dire, à reconceptualiser ce qu'ils ont vu sur scène. Donc, voici le travail en quoi consistent ces ateliers.
Non, je t'en prie, je réagirai après, pardon. J'ai un assistant avec Jérémy, il est magnifique.
Oui.
Il me fait les transitions, il est top. Et je préfère d'abord laisser la parole à Marie. Je
te domination masculine, on va la couper.
Non, mais voilà, c'était pour présenter ces ateliers. Et comme disait Jérémy, ce qui est intéressant dans cette période-là où on ne peut pas jouer, alors au début, on a failli maintenir les ateliers puisque je les mène notamment dans les centres sociaux, MPT, oui, établissements scolaires et prisons. On a cru pouvoir les maintenir. Bon, pour l'instant, c'est reporté. Mais c'est le temps pour nous, c'est vrai, de parler de ce travail de l'ombre, parce qu'il est important, comme je le disais, dans l'objectif qu'on a de pouvoir faire une autre traduction des thématiques adaptées en sciences sociales. Mais il est aussi important parce que dans les quartiers où nous jouons, puisqu'on joue dans des théâtres comme le Théâtre de l'Œuvre, mais on joue aussi directement dans les quartiers dits prioritaires de la ville, et ces ateliers permettent de créer un premier rapport de confiance avec les groupes, et en plus de faire venir, de transmettre l'information aux gens des quartiers et de venir voir les spectacles. Donc il y a un double rôle dans ces ateliers.
Oui.
Jérémy.
Oui, parce que c'est vrai que c'est extrêmement important. C'est pas parce qu'on joue gratuit dans un quartier populaire que les gens vont venir. D'abord parce qu'ils sont souvent aussi... ils ont conscience d'un rapport de domination, de subvention, de tout un business aussi qui a... dans lesquels les élus, les délégués du préfet, c'est assez complexe cette sauce-là, mais en tout
une
cas,
orchestration, oui.
Une certaine orchestration, une certaine lassitude, une certaine forme de colonialisme de la culture qui vient apporter la bonne parole. Et nous, c'est forcément l'inverse qu'on propose, et c'est vrai que, si, par exemple, sur des ateliers, des fois, on n'a que 5 personnes qui viennent à l'atelier, et ça peut sembler très peu, mais ensuite on va avoir 50 personnes à la représentation. Ensuite, et c'est exponentiel comme ça, quand on a 15 personnes ou 20 personnes qui viennent sur des ateliers, on a 70-80 personnes. Et ainsi de suite, c'est très intéressant de voir comment l'information se propage, et que du coup, oui, il y a une pièce qui vient, il y a des gens intéressants qui viennent bosser, qui viennent raconter des informations qu'il faut partager.
Moi, je voudrais rebondir dessus, c'est qu'en atelier, j'ai eu souvent des remerciements de la part des groupes en disant « merci de venir chez nous ». Donc c'est
mais comme si ce sont des territoires un petit peu où on n'a pas le droit d'aller, la culture n'a pas sa place.
Oui, et c'était vraiment...
C'est pas accessible pour eux. Ouais.
C'était limite gênant pour ma part, parce que c'était pas à être remercié, mais c'était intéressant en tout cas de leur point de vue. C'était que vous veniez jouer ici, vous déplacer pour nous. Et donc c'était cet intérêt de cet atelier, comme je disais, de cette première rencontre de mise en confiance. Mais c'est aussi, moi, dans mes ateliers, à partir de chaque spectacle, je vais les adapter au public, mais aussi je réactualise les concepts et les thématiques qui ont déjà été adaptés sur scène. Donc en actualisant les concepts, ça permet aussi d'intéresser les gens, puisque ce qu'il disait du colonialisme de la culture, c'est aussi que des fois la culture quelque part s'impose sans parler de la vie au quotidien et des problèmes sociaux qui se posent. Or nous, comme ce sont des théories sociales et qu'en plus je les réactualise via l'actualité, mais aussi par rapport au public qui me font face, ça permet de leur donner aussi, de leur faire naître l'intérêt de venir voir le spectacle.
Alors qu'est-ce que c'est, et après on va y venir notamment avec l'histoire universelle, différents exemples d'ateliers de sciences sociales, mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'éducation populaire? Alors c'est un thème qui est évidemment, pour moi, qui a beaucoup de sens, et qui est extrêmement fédérateur, extrêmement important. On le voit nous dans les quartiers avec les différents ateliers qu'on peut créer, on le voit avec la friche de la Belle de Mai qui à mon sens est peut-être un exemple d'éducation populaire. Quand je dis un exemple, je ne dis pas le meilleur exemple, mais en tout cas qui fait partie... De ces thématiques-là. Aujourd'hui, l'éducation populaire, elle a quelle connotation, elle a quel sens? Je m'adresse à vous deux.
Ben, le terme populaire, là, si on parle de sociologie, c'est très flou, très, très complexe, parce qu'il y a énormément de manières de le comprendre. Pour nous, l'éducation populaire, c'est aller directement au conflit.
Voilà.
C'est d'exposer
de faire réagir l'autre.
Directement les conflits, la violence sociale, et de ne pas présenter un vivre ensemble qui est une formule vide.
Oui, qui est complètement.
Et c'est apporter aussi la complexité du monde social. Parce que très souvent, on a été confrontés avec certains agents de l'État qui nous ont dit attention, ne parlez pas de racisme, ça pourrait être compris à l'envers, n'apportez pas trop la question de cette complexité-là par rapport à l'identité française, la double culture, oui, mais attention. Nous, c'est tout le contraire. C'est que les gens. Dans les quartiers populaires, mais également les prisonniers et les scolaires. Désolé de faire ces ponts-là, mais c'est là qu'on travaille. Sont capables de cette complexité-là parce qu'ils apportent en eux-mêmes. Et ces rapports de violence, ils la subissent en permanence. Quand vous êtes un prisonnier, pas la peine de vous faire un exposé sur la violence symbolique. Ils ne connaissent pas ce terme-là. Par contre, ils connaissent bien la violence qu'il y a par rapport à un directeur, par rapport à un avocat commis d'office qui les a flingués. Donc, c'est extrêmement important d'aller directement sur ces points-là pour ensuite déconstruire, par exemple avec l'histoire universelle de Marseille, la question du centralisme de l'État qu'on a vécu et qui est extrêmement violente. Ou avec la domination masculine, cette domination symbolique qui est la violence invisible, à part de celui qui l'a subi. Donc, pour moi, l'éducation populaire, c'est aller sur ces thématiques-là que, encore une fois, la culture et une certaine partie des politiques de la ville tend à vouloir évincer avec la crainte d'amener à des formes d'émeutes, ce qui est complètement faux, puisque au plus on va sur la violence, au plus on peut désamorcer justement cette violence.
Et on peut éteindre ça. Richard, peut-être.
Oui, c'est bien de voir la réalité où les gens ont peur de dire les choses comme elles sont, alors qu'en fait, les autres personnes que vous avez certainement comme public sont capables de le comprendre, de le voir et en parler aussi. Je veux dire, il n'y a pas de barrière, en fait. La barrière que chacun a, et peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans la tête de tout un chacun, c'est parce que des gens n'ont pas, malheureusement pour eux, la possibilité de fréquenter des gens qui sont, à leurs yeux, différents, mais qui sont pareils, en fait.
Mais surtout, moi, je pense que dans ces problématiques-là, il y a encore une question de domination et de positionnement, dans la mesure où, moi, je fais la transition aussi sur l'éducation populaire. Pour moi, ce qui est important dans ces ateliers, c'est quelque part, c'est de dire à ces publics-là, de leur montrer qu'ils peuvent aller au théâtre, ils ont les droits d'avoir accès. Et ça, pour répondre un peu à ce que vous disiez, c'est pas dans la tête, c'est que, quelque part, de tout est fait socialement, dans les conditions sociales et déterminismes sociaux pour ne pas se sentir à l'aise dans un théâtre ou non. Donc c'est leur montrer qu'ils ont accès au théâtre. et qu'ils ont accès aussi aux sciences sociales et humaines, qui parlent selon leur temps à parler d'eux, mais qui en fait parlent avec eux. Voilà, c'est de renouer aussi le terrain avec la science.
Mais je suppose que le ressenti que vous avez par rapport à ces personnes-là est très bon.
Le ressenti, je ne sais pas vraiment ce que vous entendez par là. Il y a des ateliers qui sont très douloureux et des ateliers qui sont explosifs, des ateliers qui sont... ça dépend à chaque fois, mais c'est un très bon rapport qui est toujours en tout cas...
Ça peut aller à la friction
Oui, et c'est tout l'intérêt. Et c'est de leur laisser surtout les propres paroles. J'ai l'impression
que... c'est très intéressant. On rappelle évidemment, parce que le théâtre de l'œuvre est souvent présent, puisque c'est là que vous œuvrez tout au long de l'année. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la domination masculine, qui je trouve un thème extrêmement intéressant, tu as parlé du livre d'Alessi Dell'Ombria, on parle de Pierre Bourdieu, la domination masculine, Tassa di Tiassine, est-ce qu'il y a d'autres thématiques qui peuvent être aussi accrocheuses que celle-là? Parce que j'ai l'impression que ces thèmes-là, on pourrait la décliner sur beaucoup de thèmes.
Ça me fait penser à une situation qu'on a vécue, et c'est une très bonne transition, avec le spectacle Pour un nouveau système, qui est un spectacle, je vais le résumer très rapidement, on va dire sur la liberté du poète dans la société, et qu'on avait proposé en prison, prison de Salon. Et personnellement, j'étais très sceptique en me demandant en quoi ça pouvait les intéresser, puisqu'on partait toujours l'idée qu'on allait parler de leurs problématiques. Et je pensais vraiment pas arriver à trouver le pont, et c'était fortement intéressant, puisque à partir de textes de Stieg Dagerman,
De Césaire.
De Aimé Césaire, et aussi de la question du poète, en fait, très rapidement. Donc le spectacle a beaucoup plu. Et comme on fait suivre nos spectacles à chaque fois d'un débat pour discuter à chaud de ce qu'on ressentit, très rapidement, ils ont lancé un débat sur. Ils voyaient complètement le lien entre ce poète qui se débat contre l'État pour sa liberté avec leur propre manifestation pour obtenir une meilleure nourriture à la cantine. Donc c'était passionnant.
C'était ciblé sur un meilleur confort, entre guillemets, ou un meilleur respect à leur égard, peut-être.
Mais de la lutte. Et ils ont compris que la lutte du poète, pour eux, la lutte, c'était déjà à l'intérieur de pouvoir bien manger.
Et est-ce que c'est quelque chose, pendant que je te coupe, que toi, tu aurais pu anticiper? Parce que je trouve que c'est extrêmement...
Non, moi, je n'avais pas du tout anticipé.
Tu as été surprise par ça, c'est ça qui est intéressant.
Oui, et donc c'est vraiment une leçon qui est très intéressante. C'est qu'ils avaient, encore une fois, faut croire que moi-même, je les avais... minoré dans mon regard tel que je le critique pourtant de la part des institutions, mais je ne les pensais pas capable de comprendre tout ce lien-là de mécanisme, de qu'est-ce que c'est la domination et la lutte. Et en fait, il avait très bien compris.
Oui, non, c'est parce que cette pièce-là, Pour un nouveau système, c'est tiré des textes de Stieg Dagerman, de L'écrivain et la conscience, aux éditions Agone. Et c'est vrai que c'est un poète qui se débat, avant de se battre contre l'État, ou de se débattre avec l'État, comme le dit Marie, il se débat aussi avec les intellectuels qui volent en quelque sorte la littérature et qui en font un jeu de société, comme on le voit avec Pivot, comme on le voyait avec Pivot, comme on le voit aujourd'hui avec la Grande Librairie. Et de cesser ce jeu de la bourgeoisie qui finalement neutralise les luttes et de revenir à l'essence de la poésie qui est cette forme extrêmement explosive et de cette conscience de l'écrivain, c'est la conscience de l'univers, c'est la conscience de la poésie, mais c'est aussi bien sûr la conscience de classe qui échappe complètement à la culture bourgeoise qui domine les 99% de ce qu'on voit, de ce qu'on lit, de ce qu'on entend. Et donc ça peut sembler microscopique comme lutte, de s'intéresser au problème du point virgule, de s'intéresser au problème des représentations syndicales d'un poète dans la littérature. Et c'est vrai que la réaction des prisonniers était à l'inverse, c'est-à-dire que l'outil que met en place Stieg Dagerman pour combattre cette forme de domination dans l'art, ils l'ont directement adapté à leur problème de non-représentation syndicale pour leur lutte au sein de la prison pour arrêter de bouffer de la merde.
Oui, il faut le dire, c'est souvent le cas, et on a l'impression que leurs revendications sont complètement légitimes, même si je sais qu'il y a des efforts qui sont faits dans certaines prisons où on essaye de...
C'est ce qu'ils disaient, d'être vulgaire, mais...
Non, mais on est bien d'accord avec ça. Un mot, Marie, 9h49 sur les ondes de Radio Galère, il nous reste 10 petites minutes, on est en direct avec Collectif Manifeste Rien. Un mot sur les différents exemples d'ateliers de sciences sociales et éducation populaire. Moi, j'ai quelques slides là, très sympas qui sont très évocateurs. Je vais te les laisser les diriger, mais avec, j'allais dire, un amour exacerbé pour Marseille et le côté un peu, j'allais dire, patriotique. On n'est pas très chauvin à Marseille, on le sait. Ça fait pas partie de nous. Par exemple, moi je trouve ça très intéressant. Interdit de fumer dans toute la France. Et puis à Marseille, c'est autorisé. On sait que la capitale n'est pas à Paris, mais elle est bien dans le sud, à Marseille. Et qu'au-dessus d'Avignon, on dit que c'est le nord, d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on dit. Mm-hmm. Un mot sur tous ces différents ateliers qui ont du sens, qui sont parlants, et peut-être qui, je suppose, interpellent le public, parce que à travers des musiques de rap, ça t'arrive, des photos, des vidéos, depuis les grands clichés, c'est ce que je viens d'évoquer, j'en ai évoqué quelques-uns, mais il y en a d'autres, on arrive à je sais pas, c'est conscientiser, mais en tout cas à interpeller, Marie.
Oui, alors les slides dont tu parles, effectivement, c'est pour expliquer aux auditeurs, c'est que mes ateliers fonctionnent à partir d'illustrations en PowerPoint, en vidéoprojection, et par des images, des photos, des illustrations, ou aussi bien des extraits télévisés ou des musiques. Et là, ce dont tu as parlé, c'est que pour l'histoire universelle de Marseille, c'est quand même 1000 ans d'histoire de l'an 1000 à l'an 2000. D'intéresser les publics, c'est pas forcément évident. Moi-même, j'avais du mal à suivre mes cours d'histoire à l'école. Donc d'arriver à les intéresser à ça, encore une fois, c'est leur montrer l'intérêt de cette histoire, de pourquoi la regarder en face. Et j'ai beaucoup aimé jouer avec les caricatures et les clichés, notamment cette carte de la France, donc effectivement, où Marseille est la capitale. Au-dessus d'Avignon, c'est le nord, Paris, c'est des cons, et on va dire le nord, c'est le pôle nord. Et ça plaît beaucoup, notamment... Enfin, tout le monde rit à ces images-là, comme celle de « On peut fumer à Marseille ». Il y en a une aussi que j'ai pas amenée sur le stationnement, qui est vachement bien, avec où se stationner. Donc, ils expliquent toutes les différentes modalités. Et à Marseille, où on veut tant qu'il y a de la place. Et fin tant que ça rentre.
Sur les vélos, peut-être, il y a quelque chose à faire.
Ça n'a pas été actualisé.
Mais à Marseille, où on ne se gare pas, on crée une place.
Exactement. Et ce qui marche très bien, c'est qu'au début, je les attire avec ça, ça les fait rire. Et je leur montre qu'en fait, c'est cliché, mais ce n'est pas totalement faux. Et non. Que si on connaissait notre propre histoire, on saurait. Et on sait pourquoi on découvre dans l'histoire d'Alessia Lumbria, enfin dans l'histoire de Marseille, pourquoi on a des problèmes avec les Aixois. Tout a été fait par le pouvoir royal de France pour nous diviser.
Et le petit Paris, hein, le côté
et
un
oui,
peu...
Mais c'est, de fait, dans l'histoire, on va le comprendre, pour enlever le pouvoir et le pouvoir de rébellion de Marseille, ils ont favorisé Aix, pour le faire rapidement. Paris, voilà, ça vient... C'est le pouvoir royal qui est installé là, on va dire... dans la concentration du pouvoir, on comprend aussi le pôle Nord, parce qu'effectivement, on est bien plus proche des Catalans dans la culture que des Parisiens et des Lillois. Donc c'est remonté de tous ces clichés, on est fiers d'être Marseillais, alors ça c'est intéressant, c'est resté, mais on ne sait plus trop de quoi, à part l'OM, mais qui perd encore 3-0 hier.
Donc, tu fais mal à mon OM. Là.
Et je sais, mais c'est pour on a d'autres éléments de fierté.
Mais j'avoue que quand j'ai parlé de chauvinisme, j'ai de suite pensé à l'OM, évidemment, parce que... Et encore qu'aujourd'hui, on est plutôt... réaliste et lucide, on accepte que on n'a pas le niveau et qu'on vide et entre guillemets, on n'est pas dans le plein kiff de la cité olympienne ou du club de l'OM. Mais bon, ça c'est une autre histoire.
Non, certain. Et juste voilà, ça donne au moins, je l'explique aux jeunes notamment, écoutez l'histoire que je vais vous raconter, venez voir le spectacle et vous allez trouver d'autres, même si l'OM perd, vous aurez d'autres histoires de fierté. Et juste un dernier truc qui moi m'intéresse beaucoup, c'est je trouve qu'une des phrases qui représente beaucoup les Marseillais, désolé de ma vulgarité, c'est « je m'en bats les couilles ».
Et bon, vraiment... René Malville, tiens, qui le dit souvent, le fameux René Malville, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un amoureux de l'OM, qui d'ailleurs passe de temps en temps, sans les citer, mais on va le dire, sur TPMP, vous savez, c'est ce personnage avec les cheveux longs, grisonnants, et qui te...
Ok, oui, je vois très
voilà, bien. Voilà, sa phrase... phrase culte et en effet celle-là. Voilà.
Et elle est très intéressante parce que dit par le Marseillais, normalement il y a un peu la bouche qui tombe et la main comme ça qui se retourne. Et il y a vraiment ce truc de, à la fois de défaitiste, de j'en ai rien à foutre, de toute façon je garde ma fierté dans ce que dit Alessi, dans ce stigmate du dominé. Donc c'est vachement intéressant de se dire tout ce qui nous paraît vulgaire aujourd'hui, en fait regardons-le et l'histoire nous permet de comprendre.
Alors justement, sans y voir là une référence à la domination masculine, mais quand un homme le dit, j'ai l'impression que c'est peut-être plus caricatural. Il y a cette caricature qui est présente. C'est vrai que d'entendre Marie le dire, voyez, je dis pas qu'il y a une certaine douceur, mais c'est complètement. Non, je vais pas aller jusque là quand même. Hein. Mais c'est complètement différent. Mais je veux pas être attaqué pour domination masculine, surtout pas. Il nous reste 5 petites minutes et je vous laisse tout simplement axer là où vous voulez axer pour les 5 dernières minutes, parce qu'évidemment avec ces clichés, on pourrait en faire une heure. Peut-être parler, tu l'as évoqué, mais Pour ne citer que la région marseillaise, on sait que voilà, vous avez le soutien du Théâtre de l'Œuvre. Peut-être indiquer les différents centres sociaux. Tu as parlé de la prison de Salon, mais il me semble que ce n'est pas la seule, puisque vous avez les Baumettes, Luynes, Tarascon. Enfin, voilà, il y a d'autres choses et d'autres lycées aussi.
Les centres sociaux, ils sont nombreux dans lesquels on a travaillé, avec qui on travaille. Il y a Frévalon, La Morelle, Bernard Dubois, Herbel, Les Cailloles, Romain Roland, La Rouguière, Saint-Loup, la Vallée de l'Uvonne. Voilà, donc c'est un gros travail qui se fait.
Du nord-est au sud-est.
Sur ce territoire, avec à chaque fois la même méthodologie de travail, donc des ateliers de médiation avant le spectacle, puis après. Le spectacle, qui développe les thématiques d'histoire, de sociologie, de critique sociale. Et avec ces images qu'a décrit Marie, ce que je trouve aussi intéressant, c'est de voir comment on peut partager à travers des images que, par exemple, Pierre Bourdieu aurait nommées, qui appartiennent au vulgaire, qu'on retrouve, qui circulent sur Internet ou qu'on peut voir sans cesse. À travers ces clichés-là d'images, comment on va vers une information qui est savante. Et c'est extrêmement important parce que ça permet, si on arrive directement avec un livre ou avec une pièce, c'est très difficile d'intéresser des gens qui n'ouvrent pas les livres. Et nous, le livre, il n'a rien de sacré. Tout comme le plateau est sacré. Mais le théâtre en tant qu'institution, c'est pour ça qu'il ne faut pas être défaitiste sur l'institution, parce que c'est pas les 126 millions qui vont aller aux scènes conventionnées qui vont aider les compagnies comme les nôtres ou les tiers-lieux comme il y a le tiers-monde. Donc il faut être capable de s'organiser différemment hors de cette sacralisation du livre ou de l'institution culturelle. Et ces images-là permettent le partage de ces connaissances qui normalement ne sont réservées qu'à une certaine élite.
C'est un raccourci en fait. J'ai l'impression, pas du cerveau, mais de se dire, voilà, cette image-là, elle est parlante, elle est évocatrice, et on peut y comprendre différentes interprétations, mais en tout cas, le sens de la question est abordé, et justement, ça a du sens.
Donc, ce qui est intéressant, oui, pour reprendre un peu, c'est que ces images, elles permettent, comme il dit, le livre n'est pas sacré, le livre est un outil, est un média, la scène est un média, l'image est un média, et moi, après, je sais que j'utilise... parce que c'est aussi une partie du travail du collectif, tout ce qui est les outils de sciences sociales et humaines. Et c'est finalement ce temps d'observation et avant de juger et de penser, tout simplement de se rendre compte de quelle réalité on a en face. Donc il y a toute cette question-là. Et ce qui est intéressant avec ces images, c'est qu'en plus, on peut les amener j'amène à conceptualiser à partir d'une simple image. Là, on n'a pas eu le temps de voir, mais il y avait aussi des femmes assises par rapport à comment des hommes s'assoient. Quand je demande la différence aux gens, ils me disent c'est des filles, ces garçons, ils sont assis comme ci ou pas, mais ils voient pas ce que je... Et petit à petit, je leur amène à dire, mais regardez la manière dont elles sont assises, parce que les jambes fermées, les jambes ouvertes, et c'est intéressant comme ils arrivent à voir même des détails que je n'avais pas vu moi dans ces images, parce qu'ils ont compris le sens et ils arrivent à conceptualiser les moindres failles de la domination masculine qui, à la base, ils ne concevaient pas.
Oui, ou alors, pour conclure, quand tu nous montres, par exemple, Laura a trouvé le poste de ses rêves, on la voit positionnée en train de lire un livre et de s'évader. Et puis, Julien a trouvé un poste à la hauteur de ses ambitions, comme une sorte de trader à l'ordinateur, en mode bureaucrate et businessman. Voilà.
Donc, et chacun, les deux sont professeurs.
Chacun ses rêves. L'émission touche à sa fin.
Ce qui est très intéressant, c'est que l'image que tu présentes, elle est de l'éducation nationale.
Oui, complètement. Pardon.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette image caricaturale de la femme qui lit un petit livre de poche et de l'homme qui va rapporter de l'argent à la hauteur de ses ambitions, ces images-là sont colportées par l'éducation nationale, qui nous dit qu'elle va recruter 17 000 personnes. Donc en fait, ils veulent recruter...
C'est une campagne nationale qui avait été...
campagne nationale où ils veulent en fait que la femme reste...
Non, ce qui est plus intéressant avant de partir là-dessus, puisqu'il nous reste une minute, c'est surtout qu'en tout cas, quand moi, en atelier, les gens remarquent ça, ils me disent, mais c'est qui a fait cette campagne, et qu'on a déjà une heure de discussion, eux-mêmes me disent, est-ce qu'ils font exprès ou pas? Et ça invite tout au discours. Est-ce qu'on reproduit des choses sans faire exprès, ou est-ce qu'on le veut vraiment? Et voilà, mais donc ça invite à un débat avant de dire ce qu'on pense qu'a voulu faire l'éducation nationale.
Merci au collectif Manifesterien. Un dernier mot peut-être. Quand c'est qu'on va vous retrouver? Et en attendant, où c'est qu'on peut vous retrouver, notamment par le site, par peut-être des infos que vous l'envoyez aussi par mail ou autre. Où c'est qu'on peut vous retrouver, le collectif Manifesterien? On a 30 secondes, s'il vous plaît.
Mais en attendant qu'on puisse rejouer, on peut nous retrouver sur notre site manifesterien@blog.com, sur notre Facebook Manifesterien, en s'adhérant à la newsletter. Surtout qu'on a mis certaines captations en ligne, des émissions et des articles que nous écrivons justement pour réfléchir cet endroit de crise. Puisque le principe de la crise, c'est que les riches seront plus riches à la fin et les pauvres seront plus pauvres. Donc comment arriver à directement organiser l'après-pandémie que le pouvoir prévoit déjà par la seule force policière?
Et a priori, Histoire universelle de Marseille est reportée en avril au Théâtre de l'Œuvre.
Et c'est pas une blague, ce sera pas le 1er avril. Et vous viendrez nous en parler sur les ondes de Radio Galère. Merci beaucoup, Jérémy, Marie, collectif Manifesterien, c'est un vrai délice, on en a l'habitude. Et merci à mon Richard qui m'a accompagné ce matin exceptionnellement. C'était un vrai plaisir de m'accompagner en tant que chroniqueur. Restez fidèles au 80.4. Exceptionnellement, Radio Galère, la semaine prochaine, c'est férié, mais on sera ouvert. On fera une émission sur l'éducation nationale. On recevra des profs, il y a matière à en parler, notamment avec ce contexte extrêmement oppressant. Merci à toutes et à tous. Restez fidèles à Radio Galère. À bientôt. Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.